Vous écoutez, on lit pour vous.
Votre liste de contrôle pour l'égalité des sexes, flexibilité du travail, égalité salariale, technologie inclusive. Un texte de la rédaction paru le 30 juin 2025 sur le site ONU Femmes. Du travail domestique non rémunéré à l'égalité salariale en passant par la lutte contre les stéréotypes dans l'IA, trois modes d'action pour promouvoir l'égalité. Pour la première fois, l'égalité des sexes figure au rang des premières préoccupations mondiales, au même titre que les soins de santé et le changement climatique. La génération Z et la génération Y, ou génération des milléniaux, qui redéfinissent nos lieux de travail, nos politiques et nos espaces en ligne, ont tiré la sonnette d'alarme et braqué les projecteurs sur la question de l'égalité des sexes. Mais si près d'un tiers des jeunes considèrent l'égalité des sexes comme un enjeu urgent, 29 % de la génération Z et 28 % des milléniaux, la majorité, 58 % indique ne pas savoir comment s'y attaquer. Voici trois domaines dans lesquels commencer: à la maison, au travail et dans la sphère numérique. Ces recommandations s'appuient sur les dernières données de la Tim Lewis Foundation qui sous-tendent « He for She », le mouvement de solidarité d'ONU Femmes en faveur de l'égalité des sexes. 1. La flexibilité du travail, condition sine qua non de l'égalité des sexes. Pour de nombreuses femmes, la journée de travail ne se résume pas à la plage horaire 9h-17h. La plupart d'entre elles travaillent toute la journée, parfois sans être rémunérées, avant de s'occuper des tâches ménagères et des enfants de 17h à 21h. Ce cycle incessant commence dès le lever du soleil, avec la préparation du petit-déjeuner et des enfants, et il se poursuit jusqu'au soir avec les devoirs, le bain, le dîner et le coucher. Les enquêtes sur l'emploi du temps réalisées par ONU Femmes montrent que les femmes effectuent trois fois plus de tâches domestiques et de soins non rémunérés que les hommes, avec une moyenne de 4,2 heures par jour contre 1,7 heures pour les hommes. Cette charge injustement déséquilibrée et la nécessité constante de s'adapter à des systèmes rigides sont l'un des principaux facteurs d'inégalité au travail. C'est également l'un des plus faciles à corriger. Lorsqu'un enfant est malade ou que l'école ferme de façon imprévue, ce sont souvent les femmes qui en font les frais. Elles reportent leurs réunions ou prennent des congés sans solde quand elles ne renoncent pas tout simplement à travailler. Aux États-Unis, les femmes sont 10 fois plus susceptibles que les hommes de s'absenter du travail pour s'occuper d'un enfant malade. La flexibilité au travail pourrait tout changer. Plus de la moitié des femmes, 52 % interrogées par Tim Lewis, ont déclaré que la flexibilité au travail faciliterait leur maintien dans l'économie. Le rapport révèle également que 45 % des femmes qui envisagent de changer d'emploi en 2025 invoquent le manque de flexibilité et 40 % dénoncent l'absence d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Un changement de la culture du travail serait bénéfique pour les femmes et il pourrait changer la donne pour l'économie tout entière. Selon Flexonomics, un rapport publié par Pragmatics Advisory, une plus grande flexibilité au travail pourrait rapporter 55,7 milliards de livres sterling à l'économie britannique. Ces gains proviendraient de la fidélisation des talents, de la hausse de productivité et de l'exploitation du plein potentiel des femmes qui sont freinées par des conditions de travail obsolètes. Que pouvez-vous faire pour améliorer la flexibilité en faveur des femmes? Entreprise, normaliser l'égalité des responsabilités familiales et les modalités de travail flexibles. Créer des emplois compatibles avec la vie privée, privilégier la flexibilité des horaires, autoriser le télétravail et actualiser les règles en matière de congés afin de reconnaître et de favoriser l'égalité des responsabilités familiales. Famille, répartissez-vous les tâches ménagères. L'égalité commence à la maison. Si vous mangez, alors faites la cuisine. Si vous portez un vêtement, alors lavez-le. Si vous vivez quelque part, vous devez le nettoyer. Les tâches ménagères sont l'affaire de tous. 2. Ignorer l'égalité des sexes au travail a un coût. La plupart des femmes sont confrontées à l'inégalité et à l'injustice à un moment ou à un autre de leur carrière. Elles sont moins bien rémunérées, moins souvent promues, ignorées pour les postes de direction, interrompues lors des réunions, écartées des projets importants et plus susceptibles d'être victimes de harcèlement, de micro-agressions et d'épuisement professionnel. Dans le monde, les femmes gagnent encore 20 % de moins que les hommes et n'occupent que 28 % des postes de direction. Si les objectifs en matière de diversité sont souvent défendus, les changements concrets s'opèrent très lentement. Selon le rapport de Tim Lewis, plus de 40 % des employés estiment que leur entreprise pourrait renforcer sa politique en faveur des femmes et 47 % souhaitent que la transparence salariale devienne une priorité. La culture du lieu de travail doit également être repensée. Les femmes se disent sous-estimées, ignorées et exclues des prises de décision. Comme l'a confié une répondante, citation, « Je me retrouve régulièrement dans des environnements de travail où mon opinion n'est pas respectée. » Fin de citation. Aux États-Unis, il faudra attendre encore 50 ans pour que toutes les femmes atteignent l'égalité dans le secteur privé, 22 ans pour les femmes blanches et 48 ans pour les femmes de couleur. Malgré ces données, de nombreux gouvernements à travers le monde abandonnent les initiatives en faveur de l'égalité au moment où elles sont le plus nécessaires. Les études réalisées par McKinsey & Company montrent systématiquement que les entreprises qui comptent plus de femmes dans leurs instances dirigeantes obtiennent de meilleurs résultats que leurs concurrentes. Ignorer l'équité au travail ne pénalise pas seulement les femmes. Cela entrave le progrès, limite l'innovation et prive les organisations d'idées nouvelles, de perspectives différentes et d'un leadership capable de stimuler la croissance. En résumé, les lieux de travail inclusifs sont plus justes, plus intelligents, plus solides et plus durables. Que pouvez-vous faire pour rendre votre lieu de travail plus égalitaire? Entreprise, évaluez vos politiques, pas seulement vos résultats. Privilégiez l'égalité salariale pour un travail de valeur égale, des processus de promotion transparents et la tolérance zéro en matière de discrimination et de harcèlement. Individus, intégrez l'égalité des sexes dans votre quotidien. Adoptez une pratique d'écoute active, dénoncez les stéréotypes et défendez la voix des femmes en toutes circonstances. Messieurs, devenez des alliés. Usez de votre influence pour soutenir vos collègues féminines. Vous écoutez votre liste de contrôle pour l'égalité des sexes, flexibilité du travail, égalité salariale, technologie inclusive. Un texte de la rédaction paru le 30 juin 2025 sur le site ONU Femmes. 3. Progresser dès la conception. Lutter contre les stéréotypes sexistes dans l'IA. L'intelligence artificielle, IA, recèle d'immenses possibilités pour l'humanité car elle transforme notre façon de travailler, d'apprendre et de vivre à une vitesse fulgurante. Mais l'IA ne fonctionne pas en vase clos. Elle apprend à partir du monde que nous avons construit. Si les outils et les systèmes d'IA sont entraînés avec des données biaisées, des stéréotypes et des points de vue forgés par des décennies d'inégalités, ceux-ci influencent le produit final. Actuellement, seuls 28 % des personnes sont conscientes qu'il existe des préjugés sexistes dans l'IA. Lorsqu'elles en sont informées, plus de la moitié se disent préoccupées par ce phénomène, en particulier la génération Z et les milléniaux. Et elles ont raison de s'inquiéter. Les systèmes d'IA ont déjà échoué à plusieurs reprises. Les logiciels de reconnaissance faciale ont donné lieu à des arrestations injustifiées. Les systèmes de recrutement basés sur l'IA ont favorisé les candidats masculins au détriment des femmes. Et les algorithmes utilisés dans le domaine de la santé ont mal évalué les besoins cliniques, en particulier ceux des patients issus de groupes minoritaires, ce qui a entraîné des erreurs médicales qui auraient pu être fatales. Le problème ne réside pas uniquement dans l'utilisation de l'IA, mais aussi dans sa conception. À l'heure actuelle, les femmes représentent à peine 35 % des effectifs des entreprises technologiques américaines, mais seulement 40 % des personnes interrogées par Tim Lewis considèrent que le manque de femmes au poste de direction dans le domaine de l'IA est problématique. et elles ne sont que 24 % à penser que l'IA représente souvent les femmes de façon misogyne. Ces chiffres mettent en évidence un problème plus profond. Lorsque l'IA apprend d'un monde façonné par les inégalités, elle risque d'encoder ces inégalités dans l'avenir. Pour autant, la demande de changement est de plus en plus forte et 66 % des personnes interrogées estiment que les gouvernements devraient réglementer l'IA afin de réduire les préjugés sexistes. Cela implique d'intervenir sur tous les fronts, des générateurs d'images qui produisent des visuels stéréotypés aux algorithmes qui pénalisent les CV comportant des indicateurs féminins. Beaucoup appellent aussi les entreprises à se doter d'équipes de conception et de normes éthiques inclusives et à investir dans de meilleures données d'entraînement. Que pouvez-vous faire pour lutter contre les inégalités de genre dans la technologie? Géants de la tech, concevez des systèmes adaptés aux besoins des femmes. Embauchez des équipes techniques diversifiées, auditez vos outils pour déceler les préjugés sexistes et placez l'éthique et l'égalité des sexes au cœur du développement de l'IA. Internautes, ne passez pas à côté du problème. Dénoncez les stéréotypes sexistes lorsque vous en êtes témoin. Signalez les contenus misogynes et sexistes. Exigez des technologies au service de toutes les femmes et de toutes les filles. Vous voulez faire plus pour l'égalité des sexes? Alors que le monde célèbre le 30e anniversaire du programme d'action de Beijing, le plan le plus visionnaire à ce jour en matière d'égalité des sexes, le moment est venu de joindre la parole aux actes. C'était votre liste de contrôle pour l'égalité des sexes, flexibilité du travail, égalité salariale, technologie inclusive. Un texte de la rédaction paru le 30 juin 2025 sur le site ONU Femmes.
L'énigme est le gros problème des voitures abandonnées. Un texte de Lila Dussault, paru le 10 août 2025 dans La Presse. Sur le banc de ce Jeep Compass, une bouteille de moutarde jaune contraste au milieu des détritus, des livres d'enfants, des couvertures. Toute une vie condensée, abandonnée dans les rues de Montréal, jamais réclamée. Pourquoi? Mystère. L'énigme intéresse moins le propriétaire de remorquage Météor, Serge Landry, que le problème que causent ces véhicules délaissés. Des tas de ferrailles, de moteurs, parfois en excellent état, parfois à moitié démantibulés, qui traînent des mois dans sa fourrière, sans rapporter un sou. On est en grande partie la poubelle de la ville, dénonce-t-il. Le dit Jeep Compass a déjà passé 142 jours dans la cour de remorquage Météor, une entreprise située à l'angle des boulevards Saint-Michel et Industriel dans le nord de Montréal. Tout près trône une Tesla en excellente condition, sur place depuis 156 jours. À quelques pas, une Kia Soul en bon état, une bouteille d'eau à moitié pleine dans le porte-gobelet, des écouteurs sur le banc et des souliers Toms sur le siège arrière. Là, une Nissan au pare-brise couvert de contraventions. Ici, une Hyundai dépouillée de ses roues. Décès? Expulsion du pays? Emprisonnement? Pourquoi des gens abandonnent-ils ainsi leur voiture? Qui vaut, dans certains cas, plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ou, à tout le moins, quelques centaines chez le ferrailleur. Impossible de le savoir, répond M. Landry, qui mise plutôt sur la négligence de certains. Étant donné que ses propriétaires ne donnent jamais signe de vie, le mystère reste entier. Voiture, camion, semi-remorque. Le nombre de véhicules abandonnés dans la province est en hausse, soutient Régent Breton, PDG de l'Association des professionnels du dépannage du Québec, APDQ. En 2019, ses membres avaient recensé 17 000 véhicules à l'abandon, un nombre qui est passé à 18 800 en 2022, puis à 21 000 cette année, affirme-t-il en se basant sur des sondages menés à l'interne. L'APDQ représente 82 % des entreprises de remorquage de la province. Selon M. Breton, de nombreux Québécois ont acquis de nouveaux véhicules pendant la pandémie, car ils avaient des revenus plus importants. Depuis, la réalité économique en a rattrapé plusieurs, qui préfèrent se libérer de leurs problèmes, réparations trop coûteuses, auto non assurées, etc., analyse-t-il. De plus, il n'y a pas que des voitures qui accaparent ainsi l'espace dans les fourrières de la province. À l'hiver 2024, Remorquage Météor s'est occupé de 14 camions de déménagement éparpillés dans les rues autour de Jean Talon et Viau, dans le quartier Saint-Léonard. C'était le bordel, se souvient Gabriel, l'un des remorqueurs qui ont participé à l'opération. Sans les clés, les employés doivent faire des manœuvres additionnelles pour réussir à bouger ces véhicules, explique Serge Landry. Par exemple, l'arbre à transmission doit être débarqué et les freins désamorcés, détaille-t-il. Coucher dans la neige, c'est pas facile, relève Gabriel. L'été aussi, quand l'asphalte est à 40 degrés, que les pièces mécaniques sont à 200, t'as l'impression d'être dans un four, renchérit M. Landry. Parfois, les abandons ont lieu après des accidents. Remorquage Météor, qui a l'exclusivité d'une partie des autoroutes de la métropole, en fait les frais. Dans sa cour, traîne une remorque de 53 pieds dont les freins ont pris feu. C'est une perte totale et le camionneur de l'Alberta l'a abandonné sans rien dire et sans payer, s'exclame M. Landry. Tout près, un semi-remorque de l'entreprise Tong Air a aussi été délaissé après avoir subi une mise en portefeuille sur l'autoroute 25 à la hauteur du boulevard Armand-Bombardier, pointe Serge Landry. Il est passé à travers un garde-fou. Le réservoir à carburant a déchiré, décrit-il. Résultat, en plus du remorquage, l'entreprise a dû nettoyer l'essence et prévenir la contamination. Des manœuvres pour lesquelles elle risque de ne jamais être payée. Un fléau pour les entreprises. Partout dans la province, quand une carcasse est signalée à la police, une entreprise de remorquage exclusive au territoire a l'obligation de la retirer de l'espace public. Cette entreprise doit ensuite respecter une procédure légale d'un minimum de 180 jours avant de pouvoir se débarrasser du véhicule. En raison de délais administratifs, ça prend en général autour de 200 jours, voire plus, affirme Serge Landry. Des compagnies de remorquage au Québec ont des centaines et des centaines de véhicules non réclamés qui polluent leur terrain, et ce sont eux qui ont l'odieux de demander des frais aux propriétaires, signale Régent Breton. La situation est telle que ces entreprises envisagent de ne pas renouveler leur entente d'exclusivité avec les corps policiers cet automne, ajoute-t-il. L'APDQ a entamé des négociations avec le ministère des Transports pour trouver une solution. Elle souhaite que les entreprises de remorquage soient indemnisées pour les véhicules non réclamés. Les frais seraient ensuite portés sur les comptes des propriétaires fautifs sous forme de contraventions. Selon lui, il faut vraiment que le gouvernement prenne les choses en main pour responsabiliser les propriétaires de véhicules. Un véhicule est considéré comme abandonné lorsqu'une des situations suivantes est constatée, indique le SPVM. Il est dans un état vétuste. Il est impossible de relier le véhicule à un propriétaire. Le propriétaire est connu, mais injoignable, et le véhicule est laissé sur place depuis au moins 3 jours. Le propriétaire déclare explicitement abandonner son véhicule. En savoir plus. Source, service de police de la Ville de Montréal. 1115. C'est le nombre de véhicules abandonnés qui ont été remorqués dans la métropole en 2024. Cette année, en date du 25 juillet, 724 carcasses avaient été détectées. C'était l'énigme et le gros problème des voitures abandonnées. Un texte de Lila Dussault, paru le 10 août 2025 dans La Presse.
À la rescousse de la tortue des bois. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 2 juillet 2025 dans Le Devoir. Le Biodôme de Montréal collabore avec le ministère de l'Environnement du Québec depuis maintenant plus de 10 ans dans le cadre d'un programme d'élevage de tortues des bois, une espèce de plus en plus menacée par la destruction de son habitat. Le Devoir est allé visiter ses installations. Dans 2 locaux inaccessibles aux très nombreux visiteurs du Biodôme, différents bassins sont remplis d'eau et de plantes aquatiques, en plus d'avoir une portion au sec, le tout bien éclairé. On peut y observer quelques dizaines de tortues des bois âgées d'environ 1 an avec leur carapace à l'allure sculptée, mais aussi leurs pattes et leurs cous teintés d'oranger. Ces petites tortues proviennent d'œufs pondus dans le Témiscouata, mais elles sont élevées ici en captivité pendant une période pouvant atteindre 2 ans, avant d'être remises en liberté dans le milieu naturel qui aurait dû les voir naître. L'idée est d'apporter un soutien particulier à des populations au Québec en augmentant le taux de survie des jeunes, résume Galen Dagfus, conseiller scientifique et conservateur responsable des reptiles, des amphibiens, des poissons et des invertébrés au Biodôme. Entre les murs de l'institution montréalaise, les conditions d'accès à la nourriture, de température et de protection contre la prédation permettent en effet d'obtenir un taux de succès d'élevage avoisinant les 100%, ce qui est nettement supérieur à ce qui se passe dans la nature, où les menaces sont multiples. Prédation des œufs et des jeunes tortues, destruction de l'habitat, collision sur les routes, braconnage, etc. Concrètement, le programme de conservation de la tortue des bois débute avec la récolte des œufs sur les sites de ponte par des experts du ministère de l'Environnement du Québec. Ensuite, on les incube en milieu contrôlé. Une fois que les tortues sont nées, elles sont transférées au biodôme qui a tout prévu pour développer leurs réflexes naturels, dont des bassins d'entraînement pour simuler les conditions de courant des cours d'eau. Les tortues passent la dernière phase de leur croissance au biodôme dans un bassin situé dans l'écosystème de la forêt laurentienne. L'objectif est de leur donner accès à un environnement le plus semblable possible à ce à quoi elles ont accès dans la nature, avec le bruit, les oiseaux, etc., explique Galen Dagfus. Une fois relâchées, elles sont aussi équipées d'une micropuce qui permet de les identifier ou d'un radioémetteur qui aide à les localiser. Grâce à ces technologies, il est possible d'évaluer le succès du programme. Une espèce menacée. En 10 ans, la formule a prouvé son efficacité, puisqu'environ 300 tortues des bois ont été remises en liberté. Un coup de pouce d'autant plus important que cette espèce n'atteint pas la maturité sexuelle avant d'avoir environ 15 ans et que les populations accusent des déclins suffisamment sérieux pour que cette tortue soit classée « menacée » depuis 2010 en vertu de la loi sur les espèces en péril. En vertu de la législation québécoise, elle a seulement le statut d'espèce vulnérable, et ce, depuis 2005. Le site Web du gouvernement précise que plusieurs populations de cette espèce au Québec sont très peu documentées. On insiste aussi sur l'incertitude quant aux années à venir. En l'absence de mesures de protection renforcées, le déclin des populations de cette espèce risque de continuer pour au moins le quart des populations connues. Toutefois, il est difficile d'en estimer les chances de survie à moyen terme. Selon des données du fédéral qui n'ont pas été mises à jour depuis plus de 10 ans, on compterait entre 6 000 et 11 000 tortues des bois au Canada, dont de 2 000 à 2500 au Québec. Cette espèce est également présente en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Selon ce que précisait dès 2007 le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, l'espèce connaît un déclin dans presque toute son aire de répartition et se retrouve en petites populations de plus en plus isolées. Mais en date d'aujourd'hui, le fédéral n'a toujours pas achevé la désignation de l'habitat essentiel, qui devrait être protégé pour éviter l'éventuelle disparition de la tortue des bois. La perte d'habitat et la fragmentation, donc la perte de connectivité, sont des menaces importantes pour les tortues des bois, souligne pourtant Guylaine Dagfous. Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a malgré tout autorisé des projets qui peuvent avoir des impacts sur les habitats nécessaires à la survie de cette espèce de plus en plus menacée. Des projets éoliens à l'étude risquent aussi d'augmenter les menaces pour le reptile. La tortue des bois n'est pas la seule espèce à subir les impacts de l'activité humaine au Québec. À titre d'exemple, la destruction des milieux naturels sur le site de Nordvolt a provoqué la disparition d'habitats propices pour 3 espèces de tortues. Le terrain qui sera rasé pour accueillir le nouveau site d'enfouissement de déchets dangereux de Stablex est quant à lui un habitat pour la tortue peinte, une espèce inscrite à la Loi sur les espèces en péril du Canada. Plusieurs tortues meurent chaque année écrasées sur des routes de la province qui traversent ou qui longent des habitats de ces reptiles. Conservation de la Nature Canada demande aux automobilistes de faire preuve de vigilance pour réduire les risques. C'était « À la rescousse de la tortue des bois », un texte d'Alexandre Shields paru le 2 juillet 2025 dans Le Devoir.